l'ai prévue copieuse. Donc je vais aller assez vite sur certains, okay, sur certains points. Donc voilà, le titre qui est un peu barbare, voire très barbare, il a même été refusé par des collègues qui sont géochimistes organiciens dans un congrès où il y avait une session de géochimie organique. C'est la représentativité spatio-temporelle des biomarqueurs moléculaires dans les archives sédimentaires. Donc on a l'impression que c'est un sujet de spécialistes, de géochimistes organiciens qui s'intéressent aux petites molécules qui sont piégées et préservées au fond des sédiments lacus. Et mon propos, ça va être exactement l'inverse, c'est-à-dire que s'intéresser à ça, c'est s'intéresser à des domaines qui sont bien plus vastes. Donc voilà le sommaire de mon exposé. Je vais commencer par quelques généralités sur l'approche paléo-environnementale, des interactions entre climat, milieu et société. Ensuite, je vais vous exposer ce que sont des biomarqueurs ou des fossiles moléculaires, comme quoi ce sont des traceurs des organismes passés, des proxys climatiques. Proxy, c'est un indice d'approximation d'une variable ou d'un paramètre climatique. Et puis, dans certains cas, ça peut être aussi des indicateurs des activités humaines. Je vous présenterai ensuite quelques exemples d'applications et ensuite, je poserai des questions sur la représentativité de ces biomarqueurs moléculaires. Et puis, je finirai sur quelques nouvelles opportunités de développement de ces traceurs. Alors, premier point, l'approche paléo-environnementale des interactions entre climat, milieu et société. Donc ça, c'est un schéma qui est hyper classique. Avec les questions actuelles sur le changement global, les boucles d'interaction entre climat, écosystème et société. Et donc pour les comprendre, on va se baser sur des expériences passées grâce à des approches paléo-environnementales sur ces boucles d'interaction écosystème, climat et société. Avec des questions qui sont abordées depuis plusieurs dizaines d'années sur la variabilité naturelle du climat, les forçages, les moteurs de cette variabilité, comment interagissent les grands compartiments. On parlait tout à l'heure, Denis, de hydrosphère, cryosphère, biosphère, donc comment ces compartiments réagissent face à des changements climatiques ou à des forçages, quelles sont les rétroactions, et puis quels ont été les impacts des changements climatiques passés sur les écosystèmes. Donc je vais balayer assez vite, là, des exemples, ce que vous connaissez sans doute, des grands changements climatiques qui ont affecté le système Terre depuis l'Archéen, avec des systèmes où la Terre était quasiment totalement glacé, et puis nous on se trouve ici dans les glaciations du Quaternaire. Si on zoome un petit peu sur la partie cénozoïque, on voit ici des petites surprises climatiques comme la crise hyperthermale à la limite paléocène-éocène. On a eu des travaux là-dessus, je vous en montrerai très rapidement tout à l'heure. Actuellement, on a une doctorante qui travaille ici sur la limite éocène-oligocène avec un grand coup de froid qui est à l'origine sans doute des glaciations antarctiques. Et c'est le début du fonctionnement de notre climat tel qu'on le connaît à l'heure actuelle. Encore plus proche, ces variations glaciaires interglaciaires qui sont contrôlées par les paramètres orbitaux. Et puis associé à cette connaissance des climats anciens, on a la connaissance des écosystèmes. Donc là, ce sont des vues d'artistes de différentes périodes géologiques qu'on a pu reconstruire grâce aux approches paléo-environnementales. Donc je les balaye assez rapidement. Alors si on s'approche de l'actuel, on va avoir une emprise qui va être plus forte. On va avoir l'avènement de l'homme, des humains, et avec des questions qui sont plutôt centrées sur l'humain et la manière dont il interagit avec les écosystèmes et avec les climats. La première, c'est les impacts des changements climatiques passés sur les sociétés humaines. Je ne l'aborderai pas ou peu. Ensuite, les impacts des sociétés humaines sur l'environnement. Comment l'homme a-t-il modelé le paysage actuel? Quand l'homme est-il devenu agent géologique prédominant? Et avec quelle intensité, quel calendrier, c'est-à-dire les questions qu'on se pose actuellement sur la définition de l'anthropocène. Donc l'anthropocène, on en parlait encore une fois à table ce midi avec Denis, l'anthropocène c'est un petit coup de buzz qui permet de faire foisonner les idées sur ces questions de l'homme agent géologique majeur. Et qui dit buzz dit deux nouveaux journaux, Anthropocène et Anthropocène Review, et puis une multitude d'articles sur le sujet. Alors l'anthropisation du système terrestre, on peut la voir de différentes formes, la culture, le milieu urbain, pollution, les mines et carrières. On peut le voir aussi de manière très distante, c'est-à-dire la première trace d'anthropisation sur la Lune, l'anthropisation autour de la Terre, et puis pour charrier un peu mes collègues du LPC2E à Orléans, l'anthropisation d'une comète à quelques 500 millions de kilomètres de la Terre. Alors l'anthropisation jusqu'où? L'anthropisation aussi depuis quand? Alors là, c'est quand je charrie mes collègues archéologues. C'est assez facile de discuter anthropisation quand on est archéologue, qu'on travaille sur le Machu Picchu ou sur la Grande Muraille de Chine ou sur des fermes de l'âge du fer ou de l'âge du bronze, puisque les traces sont relativement évidentes. En revanche, quand on s'éloigne des sites archéologiques, ça devient un petit peu plus difficile de retrouver les impacts passés des activités humaines sur les paysages, les modes de gestion du territoire, la qualité des sols, l'érosion et les flux de matériel sédimentaire. Quelle a été la logique d'utilisation et d'appropriation du territoire par les populations, quelle a été l'évolution du degré d'anthropisation des milieux naturels, ou ce que les Anglais appellent le naturalness, le degré de naturalité des écosystèmes. Donc il faut développer une archéologie du territoire qui est à la confluence de géosciences, de la géographie et de l'histoire, coupler des approches paléo-environnementales avec des approches d'archéologie de site et d'archéologie géographique. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pris à Christophe Petit. Et puis le manifeste de Jean Guilaine en 1991 pour une archéologie agraire, donc reconstituer les territoires ruraux anciens, développer une archéologie rurale hors site d'occupation humaine. Donc dans ce contexte, on peut essayer de croiser des approches, alors c'est très naïf, hein, des approches archéologie classiques, l'archéologie de site, avec une dimension spatiale locale, temporelle qui est relativement ponctuelle. On suit des sites archéologiques sur très peu de temps par rapport aux approches paléo, une chronologie qui est en revanche très bien contrainte, et puis des informations surtout sur les activités humaines et éventuellement sur les milieux. Et puis l'approche paléo qui a plus une dimension régionale, avec une trame temporelle qui est plus continue la plupart du temps, une chronologie qui est qu'elle vaut, mais assez bonne souvent, et puis des informations qui sont plutôt d'ordre climatique et sur les milieux, et assez peu sur l'évolution des sociétés humaines. Alors je reviens au bloc diagramme. Donc nous, on s'intéresse à ces archives sédimentaires qui sont ici, qui vont collecter des informations du bassin versant, qu'elles soient d'ordre climatique là-haut, d'ordre végétation, sol, et éventuellement aussi impact anthropique ou activité humaine et le fonctionnement du lac en lui-même. Donc ces sédiments lacustres, on les considère comme des archives, au même titre que des cernes d'arbres, des spélotèmes, des coraux ou des glaces. Ces archives, ce sont des livres. Chaque page ou chaque couche correspond à une page. Et puis, dans ces archives, on va déterminer des traceurs et des proxys, qui sont par exemple des grains minéraux, des particules organiques, des éléments ou des isotopes. Et à Orléans, on a une spécialité, à l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans, c'est d'utiliser des molécules fossiles qui sont aussi préservées dans ces archives. Donc toute la difficulté, ça va être de traduire ces molécules en une information qui sera pertinente et qui nous permettra de reconstituer les interactions entre homme, milieu et climat. Alors, je passe au biomarqueur moléculaire maintenant. Qu'est-ce qu'un biomarqueur ? C'est un composé organique qui est détecté dans un sol, un sédiment ou une roche, dont la structure va être suffisamment originale et préservée pour être reliée à son taxon producteur. Et plus le taxon est restreint, plus le marqueur sera spécifique. Alors, j'aime beaucoup cette phrase de Eglinton, père et fils, en 2008, où en fait c'est le champ des possibles est énorme avec ces biomarqueurs moléculaires. On n'a pas de limite, si ce n'est, et ça c'est au quotidien que je peux vous le confirmer, les questions de fuite, de plomberie, voire de financement. Alors, sur quoi est basée cette approche biomarqueur ? Sur le fait que dans l'arbre de la vie, chaque organisme ou chaque taxon, chaque clade, à une machinerie enzymatique différente qui va lui permettre de fabriquer des molécules différentes. Donc on arrive à définir comme ça un arbre de la vie à partir de biomarqueurs moléculaires. Et puis la conséquence, c'est que dans le temps, ces biomarqueurs moléculaires n'ont pas été présents tout le temps, et on arrive à distinguer dans l'échelle stratigraphique l'apparition de certains biomarqueurs, par exemple ici un triterpène pentacyclique qui apparaît au Permien et qui sera plus tard le marqueur caractéristique des plantes à fleurs, des angiospermes. L'autre intérêt de ces biomarqueurs, c'est qu'ils sont produits un petit peu partout, dans le bassin versant, même dans l'air, mais dans le bassin versant, dans la colonne d'eau, ou dans le sédiment. Donc le fait de retrouver différents biomarqueurs dans le sédiment va nous permettre d'avoir une vision intégrée de ce qui se passe à la fois dans le bassin versant, dans la colonne d'eau et dans le sédiment. Alors comment on fonctionne ? On prélève des échantillons sur une carotte, on prélève une carotte, ensuite on va prélever des échantillons en ayant établi un modèle d'âge, on va extraire ces sédiments de manière à avoir un jus de sédiments, cet extracteur c'est un peu comme une cafetière, On va extraire un jus, et puis ce jus qui contient quelques milliers de molécules, on va le fractionner en différentes classes chimiques, alcanes, alcènes, alcool, aromatiques, cétones, etc. Donc au total, pour un échantillon, on va avoir, nous on travaille avec une dizaine de fractions. Donc imaginez-vous des carottes qui mesurent plusieurs dizaines de mètres de long, qu'on va essayer d'échantillonner au centimètre, parce qu'on est un peu gourmand. Ça va représenter un gros travail d'analyse et ensuite de dépouillement. Donc l'appareil qu'on utilise classiquement, c'est un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse qui va nous donner en première information un chromatogramme ici. C'est le même appareil que vous pouvez voir par exemple dans les experts, Las Vegas, Miami, etc. C'est la même marque, sauf que en général, eux obtiennent le résultat au bout de 2 minutes. Avec nous, je vais vous montrer que c'est un petit peu plus long, mais bon, c'est à peu près la même démarche. Ça, c'est Mohamed Boussafir et Claude Lemilbeau dans un article de la République du Centre, et on a à peu près la même démarche. Je peux m'asseoir. Voilà, alors ce chromatogramme, on va essayer de le faire parler et d'identifier chacun des pics. Par exemple, vous avez ici un spectre de masse, c'est la fiche d'identité d'une de ces molécules, ça doit être celle-là, sans doute, je pense. Et après, il va falloir déterminer ce qu'est cette molécule, à quoi correspond son spectre de masse. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les bibliothèques, là, la NIST, et vous voyez que bah, la molécule qui nous indique, c'est absolument pas celle dont je vous ai montré le spectre de masse. Hein, les deux spectres de masse sont très différents parce que ces bases de données ne sont pas adaptées. Donc au lieu de nous appuyer sur des bases de données, on va aller lire la littérature des chimistes et des phytochimistes pour essayer d'identifier nos molécules et puis aussi pour savoir quels sont les organismes sources de ces molécules. Donc de la littérature de chimistes, et au total ça représente un travail assez conséquent. L'exemple ici d'un travail de Marlène Lavrieux sur ces molécules assez singulières qui sont des marqueurs d'astéracées, pâquerettes, pissenlits, chardons, etc. Alors voilà ce qu'on a trouvé dans des sols autour du lac d'Eda, dans le massif central, toute une palanquée de molécules qui ont à peu près toute la même structure. Donc on s'est posé la question, quelles sont les plantes qui sont capables de fabriquer ces molécules? On a regardé dans la littérature, on a eu beaucoup de littérature, si bien qu'on en est arrivé à se poser la question, vous voyez ici Monsieur Bollmann, on est en 1981 ici, on est toujours en 1981, et c'est la première fois qu'on a dû se poser la question, qu'est-ce qu'on fait après 1981 Z? Donc si vous êtes confronté au même problème, sachez qu'après 1981 Z, c'est 1981 AA, dans la liste des références publiées. Donc au total, voici ce qu'on a produit avec Marlène, un tableau qui fait l'inventaire, qui fait la synthèse des plantes, alors c'est en tout petit, hein, mais des plantes qui sont réputées fabriquer ces différentes molécules. Un petit tableau dans un article. Au total, voilà l'information qu'on avait compilée. Donc pareil, c'est très petit, mais ça vous montre la quantité d'informations avec près de 800 plantes, 30 biomarqueurs, 1000 relations entre tel biomarqueur est présent dans telle plante et 460 références bibliographiques. Pour, je le rappelle, un petit tableau dans un article. Donc on a été obligé d'organiser toutes ces données, de les bancariser. On a créé une base de données qui nous permet d'avoir des informations sur nos biomarqueurs et de relier ces structures aux plantes qui sont supposées les produire avec la biblio afférente. Alors ça, c'est la démarche et quels sont les résultats. Alors je vais vous montrer trois boîtes à outils des biomarqueurs. La boîte à outils plantes vasculaires, où on a des molécules qui sont spécifiques des graminées, de Panicum miliaceum, je rediscuterai tout à l'heure en long, en large et en travers de cette molécule, les marqueurs de composés, d'astéracées, et puis des marqueurs de pinacées, pin, sapin, épicéa, etc. On a la même boîte à outils, voire plus vaste encore, en ce qui concerne les bactéries, avec des opanes ou des molécules un peu plus complexes, on appelle des GDGT. Et puis la boîte à outils algues, alors c'est pas exhaustif, hein. On a plusieurs milliers de biomarqueurs, bah, imaginez la diversité chimique du vivant, et bah, on a à peu près tout ce champ des possibles, avec des marqueurs de microalgues d'eau douce, des marqueurs de glace de mer, et des marqueurs de coccolithophoridae, les thés qui constituent la clé. Alors tout ça, ce sont uniquement des traceurs, on discutera après de ce qu'est un traceur, jusqu'où on peut l'interpréter. Ces molécules-là sont un peu plus que des traceurs. Quand on les retrouve dans les sédiments, on atteste de la présence de ces coccolithes, mais un peu plus. Parce que les coccolithes fabriquent ces molécules en proportion variable en fonction de la température de l'eau dans laquelle les coccolithes se développent. Ces proportions sont conservées
si bien qu'en définissant un indice particulier, on arrive à établir une corrélation entre cet indice, fondé sur les concentrations de ces deux molécules, et la température moyenne annuelle de l'océan. Donc voilà un proxy climatique, c'est-à-dire qu'on a des proportions de molécules dans les sédiments, et on est capable de les relier à un paramètre physique du climat. Alors ça, c'est une application que j'avais faite pendant un post-doc au LSCE, à Gif-sur-Yvette. On était dans une carotte ici, au nord de l'Islande. On a évalué, par cette méthode, l'évolution des températures de surface de l'océan. Et vous voyez, alors je vous aide un petit peu avec ces codes couleurs, hein, mais on voit très bien qu'il y a une période chaude, là, en rouge, qui correspond à l'optimum médiéval, entre 900 et 1350. Et puis ensuite, on plonge dans le petit âge de la glace, le LIA. Vous voyez, ces variations de température au nord de l'Islande, elles ont une réalité directe en Europe, puisque ça, c'était une période réputée chaude en Europe, et ça, une période réputée froide en Europe. J'aurais besoin tout à l'heure de cette relation entre température de surface de l'océan en Islande et climat en Europe, lors d'un autre cas d'étude. Alors ces molécules, ces biomarqueurs moléculaires, ils sont constitués de carbone, d'hydrogène, parfois d'oxygène, et on peut déterminer leur rapport isotopique en carbone, en hydrogène et en oxygène. Alors je vais très vite là-dessus, mais j'en aurai aussi besoin tout à l'heure. La composition isotopique en hydrogène d'une molécule, elle provient entre autres de la composition isotopique de l'eau qui est utilisée pendant la photosynthèse pour fabriquer ces molécules. Cette composition isotopique de l'eau, qui est l'eau dans la plante mais qui provient du sol et donc des précipitations, elle est dépendante de la quantité et l'origine de l'eau, de la température, de l'aridité. Et puis ensuite, l'eau qui est utilisée pour la photosynthèse, elle va dépendre également de la transpiration au niveau des feuilles, et puis ensuite des fractionnements biosynthétiques lors de la biosynthèse. Donc au total, la composition isotopique delta D, là, des biomarqueurs moléculaires, vont renseigner sur les conditions hydrologiques qui régnaient au moment où la plante a fabriqué ses molécules. Alors, quelques exemples d'applications, et je me suis focalisé sur les exemples d'applications de biomarqueurs de l'anthropisation, des activités humaines. Avec un premier cas d'étude, c'est sans doute le plus facile et puis le plus parlant, une étude qu'on a réalisée sur le lac Boqueirão, ici au nord-est du Brésil. Voilà le petit lac. Et dans ce lac, on a identifié et quantifié certaines molécules, celles-ci, là, qui sont relativement faibles. Hein, on est à peine à 1 microgramme par gramme de sédiment. Et puis celle-là, qui est déjà présente à la base, mais qui devient hyper abondante. On est à entre 10 et 15 microgrammes par gramme de sédiment à partir des années 90, 1987. Alors, on est au Brésil. Comment ? Vas-y. Alors, on est au Brésil. Vous pensez à quoi quand on parle Brésil ?
Soja. EVA.
Les verts ?
EVA.
EVA, non. Non, bestialement, on pense à quoi ?
Déforestation.
D'une manière encore plus bestiale.
Plus bestiale que déforestation ?
Frédéric ?
Football.
Merci d'avoir réveillé la bête qui est en toi. Donc vous voyez ces champs là d'irrigation qui sont en cercle, ouais. Enfin en disque. Et ben on n'est pas allé voir, mais on s'est interrogé sur l'entreprise qui faisait ces cultures. En fait c'est une entreprise qui développe qui fabrique des tapis de gazon qui vont ensuite peupler les terrains de foot du Brésil. Donc on a aussi ici une trace moléculaire dans les sédiments du lac de l'arrivée d'une entreprise qui a commencé à faire cette culture de gazon, qui a sans doute perturber le fonctionnement du lac, parce que vous voyez qu'ensuite la courbe décroît ici, perturber le fonctionnement du lac et au moins produit une molécule qu'on enregistre dans le lac. Alors c'était pas les tapis de gazon pour la Coupe du Monde 2014. Alors deuxième exemple, du cannabinol dans les sédiments du lac d'Eda, donc le lac d'Eda qui est ici dans le Massif Central, c'est un lac qui résulte du barrage par une coulée volcanique de l'Aver, ici. Et dans ce lac, on a trouvé, dans les sédiments qui sont postérieurs à 1200 de notre ère, on a trouvé cette molécule, qui est le cannabinol, qui apparaît vers 1200 et qui disparaît vers 1850. Donc on s'est aussi posé la question de l'origine de cette plante. On avait une petite idée, en fait, on l'a cherchée, cette plante, parce que les palynologues nous disaient, on a trouvé des pollens de chanvre dans les sédiments, et ils explosent à partir de 1200, et ils redécroissent à partir de 1850. Et en fait, cette molécule, elle provient du chanvre, donc une plante cultivée, mais ce n'est pas la seule source, enfin, la seule information qu'elle nous apporte. Si cette molécule est préservée dans le sédiment, c'est parce que le chanvre a été apporté au lac, et les tiges de chanvre ont été baignées dans le lac, c'est le phénomène de ruissage, de manière à attendrir les fibres et pouvoir ensuite les utiliser pour faire des cordages. Donc vous avez ici un marqueur non seulement de la culture d'une plante, mais aussi d'un process derrière pour l'utiliser. Dernier exemple, je crois, avant-dernier exemple, au Groenland, ici, l'invasion viking, par quoi elle se traduit? Vous avez ici l'abondance d'un acide déoxycholique, qui est un marqueur fécal, c'est un acide biliaire, et puis ici le nombre de spores de champignons coprophiles dans les échantillons, dans les sédiments, avec ici l'arrivée des vikings, le petit âge glaciaire, et puis ici l'arrivée des Danois. Donc on voit très bien sur cette courbe que l'arrivée des vikings se traduit par une augmentation des marqueurs fécaux, que ce soit les spores ou l'acide déoxycholique. Ensuite, après le départ des vikings, on voit une très faible quantité d'acide déoxycholique qui réaugmente à la période danoise. Donc on a ici un marqueur en fait, qui n'est plus d'une plante cultivée, qui n'est pas d'une plante cultivée et processée, mais d'une autre partie de l'agriculture, un marqueur du pastoralisme. On pense qu'avant l'arrivée des vikings, on avait un fond géochimique qui correspondait à des populations de rennes sauvages. Ensuite, on a l'arrivée des vikings avec leur bétail, ici c'était sans doute des moutons, on n'en a pas encore la preuve. Après le départ des vikings, eh ben, on a des populations de rennes sauvages qui sont sans doute inférieures, et puis ensuite on a la période danoise. Alors vous avez accepté sans sourciller que je vous dise que ben, voilà, avant les vikings on avait des rennes, et puis on en avait beaucoup moins après le départ des vikings. C'est-à-dire que je suis en train de faire directement l'interprétation que les quantités de ce marqueur biliaire dans les sédiments résultent, ou qu'elles ont un lien avec la quantité de bétail qu'il y avait pu avoir dans le bassin versant.
Modulo la préservation,
on veut dire. Modulo des questions qu'on va aborder après, qui sont la préservation, le transport, la quantité produite, enfin la production. Mais c'est bien parce que je peux faire passer ça sans problème. Je peux vite surinterpréter mes données. Enfin, de mon point de vue, je surinterprète. Néanmoins, c'est quand même super tentant de dire que voilà, les vikings ont fortement affecté la population de rennes sauvages, ce qui fait qu'il n'y en avait presque plus après leur départ. On peut dire aussi que le petit âge glaciaire a fait en sorte que les populations de rennes se sont déplacées et ne colonisaient plus le tour des bords du lac. Alors, un exemple que vous connaissez peut-être parce qu'il me colle un peu trop à la peau, c'est le lac du Bourget dans les Alpes. Et l'histoire de la miliacine, cette molécule qui est un marqueur du millet. Donc on avait choisi ce lac pour différentes raisons. Déjà parce que c'était dans le projet qui a été financé. Il a été financé entre autres parce que ce lac a plusieurs sites archéologiques qui datent au moins du néolithique autour. Et puis en période de forte précipitation, le Rhône gonfle, entre en crue et apporte un matériel qui est distinct du matériel qui sédimente classiquement dans le lac du Bourget. Donc on a fait différentes mesures, dont des mesures de titane, qui est un indicateur du nombre de crues ou de la récurrence de crues du Rhône. On a mesuré la concentration de cette molécule, la miliacine, qui est un marqueur du millet, et puis ce marqueur qu'on considère être un marqueur de l'érosion des sols. Alors première information, vous voyez la miliacine arriver ici, aux alentours de 1700 avant Jésus-Christ, ce qui correspond assez à ce que nous disent les archéologues de la date d'arrivée de cette nouvelle céréale en Europe et dans les Alpes. Alors, problème, c'est qu'autour du lac, il n'y a aucune habitation, aucun habitat ou aucun vestige d'habitat qui date de cette période. C'est-à-dire qu'on a une trace moléculaire dans le sédiment, mais on n'a pas les vestiges archéologiques qui correspondent. Deuxième point intéressant, c'est qu'on voit ici une chute des concentrations en miliacine à la transition entre l'âge du bronze et l'âge du fer. Et ça, on sait très bien, notamment ici par le titane, mais on a d'autres indices, qu'on a une péjoration climatique à ce moment-là, que les populations ont abandonné les rives du lac et donc ont abandonné la culture du millet. Et puis dernier point, on voit que dès que le millet et la miliacine arrivent dans le bassin versant et dans le sédiment, eh ben, on a une très forte augmentation de l'érosion des sols. Et ça, on l'interprète comme de nouvelles pratiques culturales avec davantage de labour, avec des outils de l'âge du bronze, sans doute moins de jachères, donc une augmentation de l'érosion des sols. Voilà, ça c'était quelques exemples d'application de nos biomarqueurs moléculaires. Donc on développe des outils moléculaires pour essayer de percevoir l'impact des activités humaines sur les écosystèmes. Mais comme je vous l'ai dit, ou j'ai commencé à vous le dire, ça pose des questions sur ce que l'on peut interpréter de ces biomarqueurs, jusqu'où on peut interpréter. Je vous ai démontré que je pouvais très vite surinterpréter sans que vous sourcilliez. Alors ça, c'est l'image aussi dont je te parlais, Denis, c'est la géochimie organique commence là. C'est-à-dire, dès qu'une feuille tombe d'un arbre, qu'un élément organique tombe de l'élément biologique, ou se détache, ou qu'un élément biologique meurt, eh ben, on commence à faire de la géochimie organique. En fait, un petit peu plus tôt, puisque alors que la feuille est encore accrochée sur l'arbre, elle va passer du vert à l'orange ou au rouge, et c'est le début de réaction de diagenèse, de transformation, et c'est déjà de la géochimie organique. Et c'est à partir de là qu'en fait, on va discuter du cycle des biomarqueurs moléculaires ou de leur devenir. Alors ça, c'est une autre illustration, ça c'est l'original, qui date de 1962, qui avait été apposée sur le bureau d'un chercheur dont je ne me souviens plus le nom, en Californie. Et c'était Schultz qui l'avait produit. Alors l'autre façon de voir le problème, c'est la caverne de Platon, c'est-à-dire qu'on est au fond de notre sédiment ici et qu'on va avoir une vision qui est très biaisée, filtrée, altérée de la réalité avec un R majuscule. Alors ces questions de représentativité, on peut les aborder sur de différentes manières. La spécificité de la source, je vais l'aborder tout à l'heure, enfin tout de suite. Des questions de diagenèse, les transformations que vont subir ces biomarqueurs. Par exemple, ce que tu disais tout à l'heure sur les marqueurs fécaux qui peuvent être plus ou moins dégradés. Des questions de consistance temporelle et de hot moments. Quels sont les moments qui sont pertinents ou qui sont sensibles et enregistrés dans l'archive. Des questions d'hétérogénéité spatiale. Quels sont les lieux qui vont être enregistrés dans l'archive. Et puis des relations quantitatives que l'on pourrait suggérer. Tout ça étant lié plus ou moins au transport des biomarqueurs. Donc l'idée, c'est de s'approcher des réalités anciennes en essayant de mieux comprendre les filtres qui altèrent ce que nous disent les biomarqueurs par rapport à la réalité. Alors le premier point, c'est la spécificité. Donc ça, c'est Monsieur de la Palisse. Un biomarqueur est réputé spécifique tant qu'une autre source n'est pas identifiée. Pour la myliacine, le marqueur du millet cultivé, on a dû contredire deux travaux qui avaient été publiés, l'un en 2009 par Liu et al, qui disait que la myliacine est présente dans Setaria italica. Setaria italica, c'est l'autre millet, le millet italien, que l'on retrouve souvent associé au millet commun, pour le corn millet, dans les sites archéologiques en Europe. Donc ça veut dire que si les deux peuvent produire de la myliacine, on n'est pas sûr à chaque fois que c'est le millet Panicum myliaceum, mais ça pourrait être aussi Setaria italica. Alors on avait des doutes sur ce travail, déjà parce que quand on fait de la géochimie organique, on ne laisse jamais un pic comme ça. Ça veut dire que les concentrations, vous voyez le pic, il est biaisé là, il est tronqué. Ça veut dire que les concentrations sont monstrueuses. Et normalement, on fait un petit peu de dilution pour avoir des pics qui sont beaucoup plus propres. Donc on s'est dit, tiens, là, le pic dans le millet Setaria italica, il est en revanche très petit, et ça, c'est sans doute le résultat d'une contamination. Premier point, donc, ces résultats seraient faux, et le millet Setaria italica ne produirait pas de la myliacine. Deuxième source potentielle, ce sont des Russes qui, en 2001, ont proposé que la myliacine pouvait être produite par Ketomium olivaceum. Alors, vous ne connaissez pas, moi non plus, je ne connaissais pas, c'est une moisissure. Une moisissure qu'on retrouve dans les milieux aqueux, voire aquatiques. Ça voulait dire que notre myliacine dans les sédiments, elle pouvait résulter d'un champignon, d'une moisissure qui poussait soit sur les carottes, soit dans le sédiment. Donc ça remettait totalement en cause notre interprétation. Bon, on était très critiques sur ce travail parce que la myliacine, comme des molécules de structure proche, c'est considéré comme un antifongique, un antibactérien, mais surtout un antifongique. Et donc, imaginer qu'un champignon ou une moisissure puisse produire un antifongique, c'était un petit peu particulier. Donc on a fait ce travail avec Nicolas Bossard, qui était mon doctorant. On a analysé 19 variétés de Panicum myliaceum, des actuelles et puis des anciennes qui continuent de pousser dans des champs. 11 autres espèces de Panicum, 5 espèces de Penicetum, 3 variétés de Setaria italica, qui est une milliers des oiseaux, celui qu'on met dans les cages. Et puis on a fait la culture de cette moisissure là dans les mêmes conditions définies par Smetanina et Tal en 2001, c'est-à-dire sur du riz. Et les conclusions, c'est que la miliacine est surexprimée dans toutes les variétés de Panicum miliaceum, et notamment dans les graines. Enfin, il n'y a même que les graines qui contiennent de la miliacine, un petit peu les feuilles parce que ce sont les lieux de synthèse, mais ensuite la miliacine est exportée et concentrée dans les graines. La miliacine est présente dans toutes les espèces de Panicum, mais pas forcément hyper représentée ou surconcentrée. Elle est présente dans quelques espèces de Penicetum. Elle est absente de toute variété de Setaria italica. Donc si je reprends ça, c'est assez faux. C'est publié dans PNAS pourtant, mais bon. Et la miliacine n'est pas produite par Ketomium olivacea. Donc cette moisissure ne peut pas produire la miliacine. Alors c'est un peu dommage parce que quand ces auteurs, Smetanina et al., ont proposé que la miliacine était produite par cette moisissure, ils ont extrait tellement de miliacine de leur échantillon, de leur moisissure, qu'ils ont pu faire de la RMN pour bien identifier la molécule, la résonance magnétique nucléaire. Il fallait beaucoup de matière, donc ils ont extrait beaucoup de miliacine. Pour moi, ils n'ont pas utilisé du riz pour faire la culture, mais ils ont dû simplement utiliser du millet, donc pas savoir distinguer du millet et du riz. Donc ils ont extrait en fait du millet, ils ont récolté beaucoup de miliacine parce qu'il y en a beaucoup dans le millet. Alors des questions de diagenèse, retenez pas les structures parce qu'elles sont toujours un petit peu exotiques ou difficiles à retenir, mais on sait que des molécules, pas forcément la miliacine qu'on considère résistante, notamment du fait de son rôle antibactérien, antifongique, mais des molécules de même structure peuvent subir des dégradations, et pas quand on est dans la fenêtre à huile ou quand on est dans des conditions thermiques fortes, mais dès les premiers éléments de diagenèse, on peut transformer ces molécules en molécules à 4 cycles qui vont commencer à s'aromatiser, ou molécules à 5 cycles qui vont commencer aussi là à s'aromatiser. Une des questions qu'on s'est posée, c'est dans quelle mesure ces transformations pouvaient affecter la composition isotopique initiale de la molécule. Ça supposerait que ces transformations vont, s'il y a un fractionnement, c'est que ça va amener un choix dans les isotopes qui restent dans la molécule. Ou ça suppose que la distribution de ces isotopes dans la molécule, au départ, elle n'est pas homogène, mais que, par exemple, il y aura ici davantage de deutérium que d'hydrogène, en proportion relative, hein, il y aura un peu plus de deutérium ici qu'il n'y en aura ici. Donc on a voulu faire le test. Alors pardon, pourquoi on a été motivé à faire cette recherche? On a mesuré ici les compositions isotopiques en hydrogène et en carbone de différentes molécules retrouvées dans un site archéologique sur les bords du Bourget, du lac du Bourget. Donc on a plein de molécules intactes ici, des triterpènes pentacycliques intacts, avec un D-sur-H qui est ici aux alentours de moins de 100 pour 1000. Et quand on regarde les dérivés diagénétiques, les molécules qui sont produites par transformation, on voit qu'elles sont systématiquement appauvries en deutérium. Donc ça suggère que ces transformations sont associées à des fractionnements isotopiques ou des pertes préférentielles de deutérium. Donc on a fait ce travail avec Philippe Berdaguet et Philippe Lezeau, vient d'être publié en ce début d'année, sur la composition isotopique de chaque groupement méthyle sur cette molécule. Donc un travail avec des physico-chimistes durs, mais le dialogue a été intéressant, et on a pu démontrer, ici vous avez les nombres, les numéros des groupements méthyles de chacun, là, on a pu démontrer qu'il y avait une asymétrie, enfin déjà qu'il y avait une hétérogénéité, et que cette hétérogénéité était symétrique, pardon, avec ici le groupement 24, par exemple, qui est plus appauvri que le groupement 26 ici. Donc comment cela s'explique? Simplement lors de la synthèse, on va avoir, bon, je ne vais pas le détailler, mais vous voyez qu'au final, on arrive avec deux fois la même molécule qui va être polymérisée en quelque sorte, ou qui va s'avoir. Donc ce qui va expliquer, tête à tête, ce qui va expliquer ce schéma symétrique. Donc on arrive à démontrer qu'au sein même d'une molécule, on va avoir une hétérogénéité de distribution isotopique. Et ça va pouvoir avoir une influence sur la prédiction de la signature isotopique de ces molécules en fonction de la diagenèse. Alors, on reste sur les questions d'isotopie, mais en fait, le débat est beaucoup plus large, c'est petit. Je te vois foncer les yeux.
Oui.
On reprend cette image là avec la feuille qui tombe. Vous imaginez cette feuille qui est gavée de biomarqueurs moléculaires, les feuilles qui luisent un petit peu en surface. Cet aspect luisant, c'est en fait des biomarqueurs moléculaires, et qui va tomber et qui va ensuite être donc tomber sur le sol, peut-être être digéré, être remise en transport, être transportée par les fleuves, peut-être qu'il y a du ressédiment dans les fleuves, et puis ensuite parvenir au lac. Donc vous voyez un temps de transit qui est assez long. Et qu'est-ce qui se passe du message qu'elle porte, cette molécule, intrinsèquement ou de par sa position isotopique? Mais on va un petit peu en amont là. Qu'est-ce qui se passe au départ? Les premières questions sur la source de l'eau. On a parlé tout à l'heure, la quantité de précipitation, la composition isotopique des précipitations va conditionner la composition isotopique de l'eau de source. Elle-même va conditionner la composition isotopique de l'eau dans la plante, qui dépend aussi de la température, de l'humidité relative, etc. La plante va utiliser cette eau pour fabriquer ses lipides avec la variabilité sur les chemins de biosynthèse. Si vous fabriquez un triterpène pentacyclique ou un alcane, vous n'aurez pas les mêmes fractionnements. C'est pas les mêmes enzymes. Et donc vous allez, pour chaque plante, avoir, et même pour chaque feuille ou pour chaque cellule, avoir des lipides avec leur composition isotopique. Ces lipides, donc il va falloir les intégrer à l'échelle de la plante. Vous récoltez toutes les feuilles, vous allez avoir un pool de lipides que vous allez ensuite devoir exporter jusqu'au sédiment. Et donc vous allez intégrer des matières qui proviennent de contextes différents pour arriver au final avec un point dans une carotte de sédiment. Donc la question, c'est comment se fait cette intégration à la fois dans le temps et dans l'espace de ces matières qui sont produites à différents moments et dans différents lieux. Alors je vais vous montrer quelques exemples qui ne m'appartiennent pas. Un premier cas, alors c'est pas des exemples qui sont super optimistes, mais je vous montrerai des trucs plus optimistes. Ça, c'est un cas d'étude qui a fait beaucoup de mal aux collègues qui travaillent sur les algues xénones. C'est dans les Bermudes, dans le golfe du Mexique. Je ne vois pas pourquoi je laisse cette diapo là. Vous avez ici donc un enregistrement sédimentaire en âge, et vous voyez ici que ce paramètre, qui est le paramètre qui permet d'estimer la température de l'eau, sur les périodes les plus récentes, ce paramètre décroît, c'est-à-dire que les eaux sont plus froides dans les 500 dernières années qu'elles ne l'étaient auparavant. Donc on se dit, changement de la circulation océanique ou gros coup de froid, etc. etc. Sauf que si on regarde d'autres paramètres, on voit que le pourcentage de carbonate décroît aussi fortement. Alors que le pourcentage, ce sont des âges ensuite, l'âge de la fraction fine carbonatée augmente. L'âge du carbone organique total augmente. Ça veut dire qu'on a ici, correspondant à ce coup de froid, une matière qui va être plus vieille, qui vient sédimenter. Et en fait, elle est non seulement plus vieille, mais elle est également plus froide. On voit ici, on voit qu'elle est plus vieille. Vous voyez les algues xénones, ces molécules qui portent le signal température. Et dans les sédiments les plus récents, ce sont les molécules qui sont les plus anciennes. L'interprétation, c'est que ce sont des molécules qui ont été produites ailleurs, aux plus hautes latitudes, où il faisait plus froid. Et ensuite, elles ont été retransportées et resédimentées. Donc on a des molécules plus vieilles dans un sédiment plus récent. Autre exemple du même acabit, ici on est dans le bassin de Santa Barbara, sur la côte ouest des États-Unis, où on perçoit dans le... Ici c'est le bassin versant, et puis là c'est le golfe, le bassin de Santa Barbara. Dans le bassin versant, on perçoit un coup de sec au Moyen-Âge, le medieval drop ici, que l'on ne percevra dans les sédiments océaniques que 200 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il s'écoule 200 ans pour qu'un message sécheresse soit produit dans le bassin versant et transmis jusqu'au sédiment. Donc vous voyez, quand on veut interpréter un signal comme ça en milieu océanique de ce qui se passe dans le continent, il vaut mieux faire attention à la question de ces temps de transport. Mieux vaut travailler sur le continent. Comment ?
Mieux vaut travailler sur les lacs.
Mieux vaut travailler sur les lacs. Bon, il y a d'autres exemples qui montrent que le temps de transport, enfin qui proposent que le temps de transport est quasiment immédiat. Par exemple, dans le Cariaco, ils ont réussi à estimer des écarts entre changement climatique et réponse de la végétation, en supposant que le temps de transport était immédiat parce que les molécules qui sont en surface des feuilles vont être abrasées par le vent avec les grains de sable et être directement sédimenté dans, dans l'océan. C'est une hypothèse qui est un peu suspecte. Alors, on revient ici au lac du Bourget. Je vous ai montré tout à l'heure un enregistrement. On a amélioré cet enregistrement de manière assez significative. Ici, on est uniquement sur l'âge du bronze et puis le début de l'âge du fer. Pourquoi je prends cet enregistrement ? Pour pointer ces transitions-là que l'on voit ici, ou cette transition que l'on voit ici. On est toujours sur la question du temps. Là, est-ce qu'il y a des décalages ou des lags dans le temps ? Le dernier habitat, mesuré avec une date sur un pieu, par l'androchronologie, date de -809 avant Jésus-Christ. Et on est ici, là, alors je ne sais plus exactement, à -800, -809. C'est-à-dire que la conséquence de la désertion des villages palafites autour du lac du Bourget, en termes d'enregistrement sédimentaire de la miliacine, c'est immédiat. Ils ont arrêté de cultiver le millet, ça s'enregistre tout de suite. Ça veut dire qu'on peut supposer le temps de transport comme étant nul. Il n'y a pas de retour au sol, les graines de millet ne touchent pas le sol et vont directement au lac. Alors qu'est-ce qui peut justifier ce transit très rapide ?
Il y a eu des choses du point de vue climatique dans ce secteur-là, enfin à cette époque-là, en termes d'épisodes orageux, des choses comme ça ?
Alors là, il y a une montée du niveau marin, on pense qu'il y a davantage de pluies en général, mais on ne sait pas si elles sont très érosives. Mais c'est valable à chaque fois, on voit ces transitions là, elles sont très abruptes, il n'y a pas de traîne.
Il pourrait y avoir une dégradation immédiate sur le sol, c'est-à-dire que les grains qui ne sont pas véhiculés directement dans l'eau sont détruits, enfin la molécule est détruite quand elle ne tombe pas rapidement dans un support, alors que dans l'eau elle serait figée.
Alors, j'en reparlerai très rapidement tout à l'heure, mais l'idée, c'est que cette molécule, elle est plutôt très résistante et qu'on peut encore l'apercevoir dans des sols, même après quelques millénaires. On pense plutôt qu'il n'y a pas eu, que la molécule et la graine n'ont pas atteint le sol.
D'accord. En fait, il n'y a pas eu de floraison, enfin, il n'y a pas eu de graines, en fait.
Si.
Il y a eu des conditions.
C'est qu'on avait directement le millet au bord de l'eau pour faire des choses, c'est ça ?
Ouais. En fait, il y avait très peu de retour au sol parce que l'essentiel des graines était récolté.
Très rapidement.
Ouais, très rapidement, et ils ont des techniques. Alors, ça, c'est les ethnologues qui nous le disent. Il y a des techniques pour que quand tu récoltes le millet, tu mets un tablier en dessous pour ne pas avoir de perte.
Ah, ouais. C'est efficace.
Ça semble assez efficace. Néanmoins, on en retrouve quand même toujours un petit peu dans les sols, mais des quantités infimes. Et puis ensuite, le millet est apporté dans les villages, consommé et puis rejeté dans le lac.
Donc c'est bien les pratiques qui font que...
Ouais, c'est un transport humain, au sens large, qui amène le millet. Donc voilà, là on pense dans ce cas-là qu'il n'y a pas du tout d'effet réservoir ou de temps de latence. Bon, pas toujours, hein. Des fois on peut considérer que c'est un niveau très faible là, ça correspond à lessivage des sols qui ont été utilisés pour le millet. Si je poursuis la courbe dans le très récent, on voit toujours de la miliacine dans le sédiment, dans les sédiments très récents, alors qu'il n'y a plus de millet cultivé depuis peut-être la dernière guerre mondiale, sinon bien avant. Alors, intégration dans l'espace, maintenant la question c'est comment des paysages aussi variés, avec des patchs de forêts, de prairies, de pâtures, etc. J'aime bien faire la comparaison avec la mosaïque fluide des membranes lipidiques. Comment cette diversité va se retrouver en un seul point ? Comment on peut percevoir cette diversité ou cette hétérogénéité ? Je n'ai pas de réponse. Mais j'aimerais bien trouver. Je vais prendre cet exemple qui. C'est un papier à Nature, je crois, mais qui est assez critiquable aussi. C'est des travaux sur une carotte ici au sortir du delta du Congo, donc qui draine tout le bassin versant du Congo. Et ils vont interpréter ces variations de composition isotopique en hydrogène de molécules comme étant des coups de sec et des coups d'humide. En quoi ça peut être représentatif de l'ensemble des conditions qui règnent dans le bassin du Congo, sachant que c'est un truc monstrueux avec des zones climatiques qui sont hyper, hyper variées. Remarquez qu'entre les valeurs les plus basses
Et les valeurs les plus élevées, il y a 50 pour 1000. Ça, c'est une étude qui a été faite autour d'un étang dans le Massachusetts, où ils ont récolté des plantes, diverses plantes autour de l'étang. Alors, ils les ont catégorisées, ça c'est fern, trees, shrubs, etc., herbs, etc. Ils en ont extrait des molécules sur lesquelles ils ont mesuré les compositions isotopiques en hydrogène, donc les mêmes conditions climatiques. Et pour un même type de plante, eh ben, on a 70 pour 1000 de variabilité. À l'échelle d'un étang. On a fait le même exercice, toujours avec le millet et l'amiliacine, sur un petit champ à Mézières-les-Cléry, à côté d'Orléans. Ça, c'est l'amiliacine dans les plants de millet qu'on a extrait. Donc, on a aussi une grande variabilité, mais une distribution qui est gaussienne. Donc, bon, on peut supposer que si cette amiliacine atteint le sol et est ensuite transportée, eh ben, on va aller vers la valeur moyenne. Et puis ça, c'est l'amiliacine du sol, justement, la même année. Et on s'aperçoit que la moyenne est quand même significativement décalée de la moyenne des valeurs dans le millet. Ça, c'est le sol, et ça, c'est le millet. Donc, revient à la question que vous aviez posée tout à l'heure sur la dégradation. Est-ce que le trajet plante-sol est un trajet dégradant, et donc on va fractionner les isotopes pendant cette dégradation? En fait, on ne pense toujours pas. En revanche, l'amiliacine qui est dans le sol, c'était l'amiliacine de la récolte précédente, qui était faite dans des conditions climatiques légèrement différentes et en accord avec cette valeur que l'on trouve ici. Donc c'est plutôt le sol comme accumulateur de miliacines qui ont été produites dans des conditions différentes. Là encore, hein, même actuellement, l'agriculteur, quand il récolte le millet, il fait attention de ne pas trop en laisser tomber dans le sol. Alors ça, c'est la figure qui est sans doute pour moi la plus troublante à l'heure actuelle. Alors troublante, pas parce qu'il y a plein de figurés dans tous les sens, mais sur ce qu'elle suppose. Vous avez ici la composition isotopique en hydrogène moyenne annuelle des précipitations. Et ici la composition isotopique en hydrogène d'une molécule, un alcane, d'une molécule. Donc les deux sont confrontés sur différents sites en Europe, selon un gradient de latitude. Et en rouge, ce sont les points qui ont été mesurés sur des plantes. En gris, ce sont les points mesurés sur des sédiments. Alors, je ne sais pas ce que vous en comprenez ou qu'est-ce que vous en tirez comme information. Frédéric ?
C'est-à-dire que moi, je vois pas ce qui est projeté, alors ça m'est un peu difficile de réagir sur une image que je vois pas.
Ah d'accord, pardon. Non, puis si je te l'explique, ça va être très compliqué. Mais je t'enverrai la présentation de toute façon.
Ok, merci.
Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a... Enfin, ce que je remarque, mais je confronte à votre opinion, c'est qu'il y a une beaucoup plus grande... pas diversité, disparité. Dispersion. Dispersion des points correspondant aux plantes que pour les sédiments.
Oui,
c'est-à-dire quand on regarde chaque plante du bassin versant, la relation entre sa composition isotopique, enfin la composition isotopique de ses molécules et celle des précipitations est moins évidente que quand on regarde directement le sédiment par rapport à la composition isotopique des précipitations. Alors, je crois que ça se voit dans le R carré, même qui est à 0,80 ici et qui n'est jamais très bon, peut-être pour celui-là, mais pour les autres. C'est-à-dire qu'on reprend le rôle d'intégrateur du sédiment.
Oui, ça te fait une moyenne finalement de la composition des molécules au cours du temps, quoi.
Ouais, au cours du temps et à l'échelle du bassin versant. Ouais. Sauf que ce que je ne comprends pas, alors c'est la seule illustration que j'ai trouvée, mais je suis preneur d'autre chose. Mm-hmm. Ce que je ne comprends pas, c'est que comment se fait cette moyenne pour qu'elle soit aussi représentative de la valeur initiale qu'on cherche à mesurer, c'est-à-dire le delta D des précipitations. Comme si entre la composition isotopique des précipitations et la composition isotopique des lipides dans les plantes, on avait une dispersion des valeurs, on a ensuite un resserrement des valeurs vers une valeur unique, celle de la molécule dans le sédiment, mais qui est très
similaire ou très comparable ou très corrélable à la composition isotopique des précipitations. Quand on dit moyenne, il y a des questions de valeur de la composition isotopique, de biomasse ou de production des différentes molécules par les différentes plantes, et on arrive à quelque chose qui est très comparable. Je n'arrive pas à m'expliquer ce phénomène. Ça semble un peu le
hasard. Peut-être qu'il te manque des étapes, effectivement, justement, ce qui se passe dans le sol et les sédiments. C'est curieux.
Là, les collègues me disent, c'est pas grave, c'est de l'intégration dans le temps et dans l'espace des molécules produites dans le bassin versant qui vont l'oxyder. Et basta. Alors, on va continuer à parler d'intégration dans l'espace en reprenant cet exemple-là. Qu'est-ce que je voulais en dire? Oui, donc on a amélioré la résolution, et non seulement on a amélioré la résolution par rapport à cette courbe-là, là je me concentre uniquement là-dessus, non seulement on a amélioré la résolution, mais en plus on a doublé les mesures. C'est-à-dire qu'on les a faites sur deux carottes, la LDB01, qui était la première carotte qu'on avait analysée, et la LDB04. Les deux sont distantes de 4 km. Et une question qu'on peut se poser, enfin là vous avez tout de suite la réponse, c'est... un même événement ou une même histoire est-elle enregistrée de la même manière dans deux carottes dans le même lac? Grande question. Là, avec toutes les erreurs analytiques et tout ça, ça me semble plutôt très très convaincant. Et, considérant le modèle d'âge aussi, que les taux de sédimentation ne sont pas les mêmes, c'est hyper convaincant. On les a recadrés, il y avait 50 ans d'écart, considérant l'erreur qu'on a en HC14, on s'est permis de les recaler sur... uniquement sur l'un de ces points-là. Donc, le même message enregistré de la même manière dans deux carottes du même cycle.
T'as essayé dans le fugitif ?
Alors, j'y viens après. Là, c'est tranquille, c'est un lac du Bourget, c'est une pluie, grosso modo, de particules carbonatées qui sédimentent. Donc, c'est facile. On a fait l'exercice dans un truc qui est encore plus compliqué que du fluviatile, peut-être. C'est du laguno, palustre, c'est très variable. Alors, ce n'est pas les mêmes échelles de temps, hein. C'est un événement qui est survenu il y a 50 millions d'années, à peu près, la crise hyperthermale du Paléocène et Eocène. Donc, on est à deux sites qui sont distants de quelques kilomètres aussi, donc avec des variations latérales de faciès qui sont majeures. On voit que... le niveau de lignite là ne correspond pas forcément au niveau de lignite là, etc. Donc on a les environnements qui évoluent très vite, un peu comme dans du fluviatile, mais peut-être encore plus. Et pourtant, malgré ces variations latérales de faciès, malgré ces environnements qui bougent très vite, ces environnements sédimentaires, alors c'est très petit, mais je vous demande de me croire, puis c'est un papier qui est en cours, le message moléculaire est très consistant entre les deux sols. C'est-à-dire qu'on voit des successions de... On fonctionne par grands groupes, fougères, gymnospermes et angiospermes, et on voit des successions végétales qui sont très similaires entre les deux siècles. Et avec un contrôle chronologique qu'on a entre autres par une excursion isotopique ici. Avec du hiatus, avec du resédiment et tout ça, on pourra parler de notre dernier carottage, où c'est peut-être encore pire comme milieu... Alors, après la question de l'intégration dans l'espace ou de la représentativité spatiale, se pose la question des relations quantitatives, ce qu'on disait tout à l'heure sur les marqueurs fécaux et en quoi c'était représentatif d'une taille de cheptel ou d'une taille de population sauvage. Donc ben là, on peut aussi considérer la question, quand on regarde ces deux enregistrements, avec des concentrations, alors là, je veux bien qu'il y ait un petit écart, mais dans deux carottes différentes, c'est quand même très similaire, on est à 150 nanogrammes par gramme, par rapport à des niveaux ici, par exemple, où on est à 75 nanogrammes par gramme. Donc on a un facteur 2 quand même, et des variations qui sont significatives dans les deux carottes. Donc on a forcément envie d'interpréter ces variations de concentration. Alors je parlais tout à l'heure des mosaïques fluides, ce qu'il faut considérer, c'est que ces variations, alors ça c'était la première courbe publiée en 2009, elles n'ont presque pas eu d'impact sur le paysage. C'est-à-dire quand on regarde d'après l'œil des palynologues, eh ben, le spectre pollinique, il n'est pas affecté au tout début de la culture du millet. Là non plus, il n'y a que dans la dernière phase d'intense culture du millet, mais il y avait d'autres cultures, qu'on commence à voir un impact sur le spectre pollinique, et notamment sur le rapport pollen de...
APNAP.
Donc très peu d'impact sur le paysage. Alors pourquoi on s'est posé la question dans le cadre d'un projet, de la mission interdisciplinaire du CNRS, voilà un bon guichet. C'était un truc en archéométrie où on s'est dit où étaient les champs de millet à l'époque. Autour du lac du Bourget, il n'y a pas 36 possibilités pour cultiver du millet parce que les pentes ici sont très abruptes, ici aussi. Et donc on s'est focalisé sur cette zone-là qui est près de la baie de Grésine où il y avait deux sites archéologiques datés de l'âge du bronze. On a discuté avec les archéos qui nous disent de toute façon, à l'époque, ils n'allaient pas cultiver à des kilomètres. C'était 2 heures de marche aller, 2 heures de marche retour. Et donc ils ont dû cultiver dans une zone assez circonscrite. Donc on s'est dit, il y a peut-être un peu de myliacine qui est tombée dans le sol, peut-être qu'elle n'est pas complètement dégradée, donc peut-être que si on arrive à mesurer et cartographier cette myliacine dans le sol, on va pouvoir reconstituer les anciens parcellaires, si jamais il y avait eu des parcellaires, ou au moins les zones de culture à l'âge du bronze. Bon, ça n'a pas fonctionné, parce que par rapport aux premières mesures, on était sûr d'avoir plein de myliacines, on en a trouvé très peu. On espérait pouvoir la dater et certifier qu'elle datait bien de 2000 ans avant Jésus-Christ. On n'a pas réussi. Mais voilà, la question c'était où étaient les champs de millet dans le bassin versant, sachant qu'on ne pouvait pas tout cultiver et qu'on n'a pas affecté de manière significative la forêt autour. Enfin, voilà des exemples de tentatives sur le parcellaire actuel. De quantification de la myliacine, on n'est pas allé très loin. Alors, d'où peuvent provenir ces variations de concentration en myliacine? Quelles hypothèses feriez-vous, Frédéric?
La production de grains, par exemple. C'est-à-dire que tu peux avoir deux fois plus de production de grains, donc deux fois plus d'émissions de molécules, tu pourrais avoir peut-être, si jamais, j'ai pas tout à fait suivi comment après ça arrive dans le sédiment, tu peux aussi avoir, si jamais il y a une voie soit aérienne, soit par les pluies, tu peux aussi avoir des conditions climatiques qui sont plus ou moins favorables.
Alors, toi tu vas directement considérer que c'est la production qui est le facteur majeur, c'est-à-dire que une molécule, les concentrations d'une molécule dans un sédiment reflètent directement la production de matière de sa matière source dans le bassin versant.
Eh bien, le premier c'est la production, le deuxième c'est pas la production, c'est peut-être en partie la production, mais c'est aussi un facteur correctif qui peut être une faible production mais un fort agent de dispersion. Peut compenser, enfin peut déconnecter la production du signal.
Tu as comparé les taux de sédimentation entre ces deux carottes?
Ouais.
C'est similaire?
Oui.
Notamment lié à ça, c'est dans les sédiments, si jamais tu as un fort rapport de sédiments parce que tu as eu des grosses arrivées, une grosse pluviosité par exemple, peut diminuer une concentration à quantité produite constante.
Alors, ça fait partie des hypothèses qu'on a émises, c'est-à-dire, la dégradation, on revient à la dégradation, mais dégradation différentielle au cours du temps, peu importe les raisons, on l'a mise de côté. Deuxième facteur, la dilution dans le sédiment par du détritisme, par exemple. Il n'y a rien dans le détritisme qui explique ces variations. Ensuite, des variations dans le transport, mais on considère que le transport, il se fait de manière directe par les populations qui récoltent, transporte, consomme et excrète dans le lac.
Excuse-moi, c'est quelle échelle de temps là sur ta courbe?
Ici?
Ouais.
Là on est en -800, là on est en -1700.
D'accord.
Donc on est en train de voir des phénomènes qui ont lieu tous les 100 ans à peu près.
Il peut y avoir de la sélection variétale?
Ah oui, ça on n'a pas de moyen de vérifier ça. Il y a aussi l'impact du climat sur la productivité des plantes. Le millet, c'est un truc qui est assez robuste, donc qui normalement n'a pas de grosses variations de production en fonction du climat. En plus, ça pousse en été, donc on ne pense pas que ce soit ce qui explique des facteurs 2 comme ça. Donc on a émis l'hypothèse que c'était, comme ton hypothèse, que c'était lié à... Enfin, ton explication, que c'était lié à des variations de production de millet. Dans ce cas-là, enfin, qu'est-ce qui explique des variations de production de millet?
La démographie.
Là, on voit les SHS.
Je sais pas, hein, je dis ça... Mais on produit plus quand on a plus de bras pour produire.
Ouais. C'est aussi l'hypothèse qu'on a émise. C'est-à-dire que ces variations-là, de concentration d'une molécule dans un sédiment, seraient le reflet de variations de besoins et donc de démographie à l'échelle du bassin versant. Pas facile à justifier. Alors, aussi.
De besoin ou de moyen de production?
J'aurais dit de besoin.
Ouais, d'accord. Parce que les besoins, c'est fonction du nombre d'enfants. Avec les moyens de production, c'est en fonction du nombre d'enfants, mais 10 ans ou 15 ans plus tard.
D'accord.
Alors à cette échelle de temps, je ne sais pas si ça joue.
Là, qu'est-ce qu'on avait à notre disposition? Pas grand-chose à cette résolution-là, parce qu'on est allé... ça, c'est une échelle d'une centaine d'années, mais là, on a des points tous les 20 ans ou à peu près. On a les hauts niveaux lacus, produits par Michel Magny. Et ce qu'on voit, c'est que cette période avec beaucoup, beaucoup de miliacines dans le sédiment correspond à un niveau bas. Les hauts niveaux, c'est en période de détérioration climatique. Comme par exemple ici, là, on voit qu'il y a eu un haut niveau. Et là, on sait que tout le monde a quitté les bords du lac et donc il n'y a plus de culture du millet. Donc peut-être un lien aussi avec le climat. Dans le transport, dans la sédimentation, je ne pense pas. Mais peut-être un lien climat, démographie, consommation.
Il y a peut-être un lien entre mode alimentaire et autre mode alimentaire. Tu produis plus de millet si, je sais pas, s'il y a moins de poissons. Enfin, ce sont des grosses bêtises.
Non, c'est pas des grosses bêtises. Pareil, pour le moment, on n'a pas de moyen de vérifier si il y a des périodes de changement. Il y a aussi, c'est pas pertinent pour cette discussion-là, mais est-ce que le millet a toujours été utilisé pour les humains ou aussi pour les animaux? Si on avait les os, on pourrait le savoir, les os humains et animaux, parce que le millet c'est une plante C4, le reste des céréales c'est des plantes C3, et les deux n'ont pas le même delta C13. Donc comme on est ce que l'on mange d'un point de vue isotopique, si je mange du millet ou du blé, je ne vais pas avoir la même signature isotopique. Alors autre lien avec le climat, ça ce sont les températures de surface de l'océan au nord de l'Islande, dont j'avais parlé tout à l'heure, mais sur une période plus reculée. Et c'est pareil, c'est peut-être les yeux de la foi, moi je vois un rythme dans ces variations, qui me semble, avec un modèle d'âge différent, mais le rythme me semble coller plus ou moins à ça. Sachant que ces variations de température de surface de l'océan, je vous ai dit tout à l'heure qu'elles étaient très connectées au changement climatique en Europe. Dernier point, alors on n'a pas énormément de données là-dessus, c'est la densité de dates dendrochronologiques qui sont mesurées sur des pieux. Il y a eu énormément de dates. Yves Billot et André Marguet ont fait un travail monstrueux de plonger sub lacus et puis récupérer des pieux, faire des dates et tout ça. Et les périodes où on a le plus de pieux datés, ça ne veut pas dire la période où il y a le plus de pieux, mais de pieux datés, ce qui n'est pas très loin, et ben c'est ces périodes-là, notamment celles-là, où on a aussi le plus de miliacines dans le sédiment. Donc on est tenté, au moins ici, là on n'a pas assez de données, ici de dire qu'il y a bien un lien entre le maximum de population et le maximum de miliacines dans le sédiment, donc de milliers cultivés. Alors on s'est amusé à faire l'exercice. On a le volume de sédiments par an, avec la surface et puis le carottage, en supposant que c'est homogène à l'échelle du lac, et comme on a deux carottes qui se ressemblent, pourquoi pas. Donc le volume, la concentration, la densité apparente, donc on sait quelle est la quantité de miliacines qui a atteint le sédiment, tout le sédiment du lac du Bourget, par an ou par dizaine d'années, ou par centaine d'années, peu importe. On connaît la concentration en miliacines dans les graines. Il n'y a que dans les graines qu'on trouve la miliacine. Et cette concentration, on a démontré qu'elle n'avait pas évolué entre des souches anciennes et des souches récentes. Donc on connaît cette concentration. Donc on est capable, par an, d'estimer des productions, des tonnages de millet à l'échelle du bassin versant. C'est ce qu'on a produit ici. Alors désolé, l'échelle est très petite, mais on arrive à, je ne sais plus, c'est marqué juste après, 160 tonnes de millet. Et puis en parallèle, Yves Billot, qui est l'archéologue du coin, a fait des estimations de la taille de la population en fonction de la taille des sites archéologiques, du nombre de pieux, de maisons et combien d'habitants pouvaient peupler ces maisons. Donc voilà la courbe de démographie, on arrive à 4000 au maximum. Alors les courbes ne sont pas directement superposables, mais ça ne marche pas si mal que ça, si bien qu'on est allé encore plus loin, et on est allé jusqu'à estimer des consommations de milliers par jour et par personne. Malgré tous les filtres ou les biais dont on a pu parler, dégradation, dilution, transport, production plus ou moins forte en fonction du climat, il y a les mêmes questions sur les données archéo, sur la taille de la population, on arrive à des chiffres qui ne sont pas complètement aberrants. Donc c'est toujours pas publié, ces choses-là, parce que je pense que c'est allé un petit peu trop loin dans l'interprétation des résultats. Il y en a qui font pire, il y en a qui publient. Alors bon, et puis ça j'en avais déjà parlé, l'amiliacine est enregistrée avant tout vestige d'habitat. C'est le premier témoignage, alors bon, on a des témoignages du néolithique, hein, mais à l'âge du bronze, c'est le premier témoignage de la présence humaine dans le bassin versant. Alors j'en ai fini avec les questions de représentativité. Je vais très vite.
Quelle heure il est ? Il est 15h.
À ce moment-là ?
Il est 15h54.
Pardon. Je suis désolé, Frédéric. Alors les opportunités. Donc moi, je vous ai parler d'un sujet un peu barbare, représentativité spatio-temporelle des molécules, le truc qui est purement du géochimiste organicien. Mais en fait, ce qui m'intéresse dans ce travail, ça a été de travailler avec, bon, je suis géologue à la base, travailler avec des paléoclimatologues, des chimistes et des phytochimistes, voire des physico-chimistes durs, des isotopistes, je suis un peu aussi, j'ai parlé un peu de microbio et d'agronomie, et surtout dans les plus récents avec des archéologues et des historiens. Ben, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à développer des interactions avec les gens les plus bizarres qu'il soit possible d'imaginer. Je vais en parler après. Ce qui me manque, ou une des frustrations, qui est un des moteurs de la recherche, c'est de ne pas voir ces molécules. C'est-à-dire qu'un paléontologue, quand il arrive avec son os de dinosaure, tout de suite, ça... Ah, moi, je montre un chromatogramme en disant, ben, voilà ma molécule. De manière plus sérieuse, la localisation de l'information, notamment de ces molécules, devrait permettre de comprendre, par exemple, les questions de transport. Comment elles sont transportées? Est-ce que c'est sur un feuillet argileux? Est-ce que c'est au sein de matières organiques complexes? Est-ce que dans la graine de millet, il y a une structuration particulière de l'amiliacine? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des cires épicuticulaires, hein, la feuille qui tombe et les biomarqueurs qui sont à la surface, le truc un peu luisant. Mais on peut les voir ici, ces cires épicuticulaires, qui sont des petits cristaux de molécules. On a des outils maintenant tels que le TOF-SIMS, Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometer, ouais, qui permettent de faire des cartographies à l'échelle nanométrique, ou micrométrique, je ne sais plus, la distribution de molécules dans un échantillon. Alors, molécules d'éléments, voire d'isotopes, dans un échantillon est très petit. Là, ici, ce sont des lamines, c'est la thèse de Julie Girardi, travail en cours, des lamines sédimentaires très très fines, et on essaie de cartographier, de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de ces lamines, ou en quoi elles sont chimiquement différentes. Ici, ce sont dans des tapis microbiens, la distribution d'autres molécules. Donc voilà, la possibilité de voir ces molécules, et ça a été l'un des sujets d'une école thématique VISMO qu'on a organisée l'année dernière. Deuxième opportunité, technique encore, c'est de pouvoir dater les molécules. On a des appareils, des des AMS qui permettent de dater des très petites quantités de carbone et on arrive à dater les molécules. Ça, c'est un travail qui commence à dater. Hein. 97, ce n'était pas sur Amicalia, c'était au Nosant. On voit que l'âge des molécules, ça, c'est les sédiments superficiels dans le bassin de Santa Barbara. L'âge des molécules peut aller de l'âge des eaux, c'est-à-dire l'âge réservoir des eaux, le carbone des eaux, le carbone dissous des eaux est un peu ancien, jusqu'à quelques dizaines de milliers d'années, en fonction de leur provenance, de leur source, si elles étaient stockées dans des sols depuis longtemps, etc. Alors l'autre opportunité, la dernière opportunité, c'est de s'échapper de la caverne et de se déplacer vers, j'ai mis des majuscules, hein, la réalité, la vérité, le quotidien, je ne l'ai pas mis en majuscules. Bon, ça doit te rappeler des choses, Denis, notamment, outre que tu es associé au aux différents projets non financés. Je l'avais présenté à l'occasion d'un truc midi. Donc se rapprocher du métro, boulot et dodo, c'est-à-dire entrer en plein dans l'anthropocène, qui serait depuis 1950 jusqu'à, bon, je pense, dans 2 ou 3 ans, c'est fini, l'anthropocène, à défaut d'humain. Et l'idée, c'est de considérer aussi l'astisphère. Alors, je suis très fier de ce mot-là depuis que Marc me l'a donné.
Ah bon ?
Je ne le connaissais pas et j'ai lu. L'astisphère, c'est-à-dire la ville, le milieu urbain, comme nouveau terrain de jeu, en considérant que c'est un bassin versant comme un autre, dans lequel il y a des matières qui sont produites. Alors, je vais le redire après. Donc, l'astisphère, nouveau terrain de jeu, transférer nos approches paléo-environnementales avec les questions que je vous ai indiquées sur l'archive, sur le traceur. Transférer ça à des socio-écosystèmes urbains. Changer d'échelle temporelle. Là, on va pouvoir travailler à l'échelle de la journée ou de l'heure, si possible. Considérer donc la ville comme tout bassin versant, avec des matières qui sont produites, transportées, archivées. Que ce soit dans la poche du préhistorique qui va transporter ses graines de millet ou dans les réseaux d'assainissement. Pour moi, c'est un peu la même chose. Relier la paléo au quotidien. Donc, reconstruire de manière à intégrer le métabolisme urbain. Comment fonctionne une ville et avoir cette information dans un lieu, dans une archive. Ça, on va passer là-dessus. Adapter les traceurs aux questions. Donc, on n'aura plus des biomarqueurs plus ou moins naturels, mais la miliacine, je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment naturelle. Elle a été produite par l'homme. Ce n'est pas un xénobiotique, mais elle n'est plus vraiment naturelle. Aux questions urbaines et confronter ce que l'on peut mesurer, nous, des sciences dures, avec ce que mesure, je ne vais pas dire sciences molles, mais.
Les sciences inhumaines. Les sciences humaines.
Les sciences humaines. Ouais. Réussir à connecter des métriques qui ne sont pas forcément connectées.
Les sciences centrales.
Notre travail actuel, qui a déjà été largement entamé l'année dernière, c'est de travailler sur ce bassin de décantation qui était en travaux l'année dernière à Orléans. Qui est un bassin de décantation qui récupère les eaux usées et les eaux pluviales. Puisqu'on est en réseau unitaire du nord de l'agglomération orléanaise, qui a été construit en 1942, qui n'avait jamais été curé. Il y a toujours. Alors là, il a été curé en été. Il vient d'être curé la semaine dernière. Entre-temps, on a allé carotter la semaine dernière et puis la semaine d'avant pour récupérer la dernière année, savoir ce qu'on a sur une année. Donc jamais curé, donc 70 ans d'archives potentielles du fonctionnement de la ville. Alors, ça draine ce bassin versant. Voilà le type d'archives que l'on a extraites déjà. On est encore en train de. Là, on va ouvrir cette semaine les carottes qu'on a prélevées. On vient d'envoyer 19 datations à Poznan pour faire du post-bombe. Voilà les types de marqueurs que l'on obtient. Donc, ça, je crois que c'est une pièce de monnaie, des morceaux de verre, des boulons, des écrous et tout ça. Et puis, ça, c'est un produit qu'on trouve dans les crèmes. De bronzage.
Ça apparaît quand
bon, les écrans. Alors on n'a pas encore, on n'en est pas là.
Des
marqueurs de pollution, des HAP, ça c'est un marqueur de gymnosperme, et puis des médicaments, caféine ou nicotine, carbamazépine, je sais plus ce que c'est.
Mais... En termes de marqueurs, les médicaments, c'est le paradis pour toi.
Oui.
Mais je sais pas.
J'ai jamais voulu travailler sur les polluants parce que en tant que citoyen, l'impact d'un polluant ça m'importe, mais en tant que chercheur, c'est pas ce qui me fait. Mais là, si je considère que ce sont des traceurs, là, oui.
La date de mise au marché.
Ouais. Alors, on a déjà des travaux en cours par des collègues qui ont travaillé sur les sédiments du Loiret, donc pas en réseau d'assainissement, en milieu presque naturel, ouais. Et ils sont en train de faire la correspondance entre date de mise sur le marché, date d'arrêt aussi, on a des médicaments qui sont arrêtés, et ça colle assez bien. Donc ouais, mais alors, je crois que j'ai fini. Voilà, ça c'est pour reprendre les mots de Thierry Paco. Donc voilà, c'est l'indisciplinarité, j'ai beaucoup aimé. Ce mot-là, je ne sais pas si tu le connais.
Thierry Paco.
Non, l'indisciplinarité.
Il y a une collection qui s'appelle l'indiscipliné ou l'indisciplinaire.
Chez Hermès. J'ai acheté le livre, mais je ne l'ai pas encore lu parce que c'est un langage que je n'ai pas l'habitude. Mais voilà, ça me plaît beaucoup, c'est-à-dire pouvoir s'approprier des questions qui ne sont pas forcément celles de notre communauté, mais se dire, bah, j'ai peut-être les moyens d'y répondre, donc pourquoi pas aller sur un sujet complètement... c'est pas forcément de l'indiscipline au sens... Tu ne fais pas ce que le dogme t'impose de faire.
C'est un peu ça, quand même.
Ouais, il en faut quand même un petit peu. Mais c'est voilà, s'inspirer aussi, être... pour paraphraser un autre grand penseur, c'est Jean-Claude Van Damme, c'est être aware.
Yes, be aware.
Il serait content, Thierry Paco, de se voir mettre en
parallèle. Avec Jean-Claude Van Damme. Voilà, j'en ai fini. Je suis très désolé. Donc, j'avais vraiment pas dimensionné.
C'est pas grave, c'était la plaisir.
Donc, si vous avez des questions...
Merci.
Bah, merci à vous trois.
Quand même, une petite question, la niacine et d'autres molécules organiques que tu évoques, enfin, j'y connais rien, évidemment, c'est pas ma partie, mais en termes de dégradation, est-ce que ça peut être attaqué par des enzymes? Est-ce que ça peut être dans la faune du sol? Est-ce qu'il y a des bestioles qui pourraient mettre à mal ces molécules-là? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est en termes de datation. C'est marrant que tu aies dit ça à la fin. Voilà, on peut pas les voir encore, mais il y a des outils qui commencent à être développés. Est-ce que l'état de la molécule, enfin, est-ce qu'une molécule c'est comme un grain détritique, tu vois? Est-ce qu'elle a, quand elle a voyagé, est-ce que tu vois qu'elle est un petit peu fatiguée? Est-ce qu'il y a des cassures? Comment ça fonctionne, ça?
Alors, une molécule est unique. Mm-hmm. C'est-à-dire que si cette molécule est dégradée, c'est une autre molécule. Mm-hmm. Et donc, nous, la manière dont on la voit avec un chromatogramme, ça, elle n'arrivera pas au même moment. On connaît pas tout. Et puis ça me fait remonter très loin. On identifie beaucoup de ces marqueurs de dégradation. Voilà, ceux-là. On en identifie beaucoup dans tous nos échantillons. Donc on sait qu'une partie du cortège moléculaire a été dégradée. L'amiliacine, je continue à penser qu'elle, dans les échantillons que l'on a, elle n'a pas subi de transformation. Ah, c'est dommage, j'ai un autre exemple qui pourrait laisser croire le contraire, mais je le montrerai peut-être après. Donc je pense qu'elle n'a pas subi de dégradation. En revanche, celle-là qui est quasiment la même, sauf que là c'est un groupement alcool au lieu d'un groupement méthyléther, ben celle-là elle peut subir une dégradation, parce que l'alcool ici ne suffit pas. Donc on peut très bien, un même échantillon dans lequel tu as l'amiliacine et son équivalent alcool peut être dégradé. On n'a pas poussé le vice, et on le fera sans doute un jour, de faire manger de l'amiliacine et de voir le résultat. Non mais à des poules par exemple. Ne serait-ce que pour voir aussi l'évolution de leur composition isotopique, mais ou à des humains. En général, pour nos biomarqueurs, l'ingestion et la digestion, ça constitue un moyen de préservation. Parce que, alors il y a l'exemple des alcénones, les marqueurs de température, là, les proxys de température. Pourquoi il y a un transfert efficace depuis le haut de la colonne d'eau, enfin la zone photique, jusqu'aux sédiments? C'est parce qu'elles sont protégées par un réseau 3D qui les empêche d'être attaquées par les organismes. Et ça se forme dans le... Alors, c'est pas l'intestin, mais lors des digestions par des copépodes. Qui vont ingérer les coccolites et faire des crottes de copépodes qui font une matrice 3D qui les bloque. Mais l'amiliacine, je ne pense pas qu'elle se dégrade. Les marqueurs de pinacée dont on a parlé, on les trouve dans les sols, on les trouve dans les sédiments superficiels. On n'a pas encore trouvé d'échantillons, à part des échantillons de tourbe dans lesquels on les retrouve. Donc eux, ils ne doivent pas être super stables. Et on ne peut jamais dire qu'une molécule est stable ou pas stable. C'est-à-dire qu'on a certaines molécules, on sait que quand elles se dégradent, elles vont plutôt faire tel truc. Et c'est pas parce qu'elles ont ces molécules-là sont dégradées, enfin on a une indication comme quoi elles sont dégradées, que d'autres qui peuvent être très proches seront dégradées. Et pas vis-à-vis des mêmes stress, température, etc. Je vais vous montrer un exemple où on pense que l'amiliacine a été dégradée. Et c'est pareil, c'est un truc qui aurait pu être super intéressant, mais qui n'a pas abouti. Alors, y a pour le millet, comme pour toutes céréales, enfin presque toutes, il y a des questions sur la zone de domestication et la diffusion. Le Near East Package, c'est
seigle, orge, blé, tout ça, ça a été domestiqué par ici, bon, c'est plutôt bien. En revanche, pour le millet, on ne sait jamais si c'est par ici ou par ici. Donc il y a des collègues qui sont en train de travailler sur différents sites, sur l'actuelle, enfin l'ancienne route de la soie, mais qui a été auparavant la route du millet, pour savoir voilà, quel est le timing de la diffusion. Et entre autres, des collègues qui travaillent ici, dans le Caucase, avec différents sites. Et ils ont trouvé, enfin on a trouvé, parce que c'est les trucs qu'on a fait chez nous, voilà, la miliacine, on la trouve dans certains sites, donc il y a bien eu du millet à un moment donné, c'est bien du millet plante C4. Puis dans certains échantillons, on la trouve, mais associée à d'autres molécules assez proches, qui diffèrent par la position de la double, de l'insaturation. Alors, peut-être que c'est une autre source, une autre plante qui produit non seulement la miliacine, mais d'autres molécules, ça on sait, hein, ça existe, on en connaît. Nous, on s'est dit que c'était plutôt le millet, la miliacine, mais qui avait un peu morflé. Ouais, alors pourquoi on s'est dit ça? Parce qu'on a fait subir à la miliacine des conditions très acides, acide sulfurique avec de l'acide formique, enfin on y allait à mort. Et là on arrive à délocaliser la double liaison avec ces trois molécules-là qui correspondent à ces trois-là. Donc en conditions très acides, on arrive à la modifier.
Ça peut s'altérer quand même.
Ouais, mais il faut charger. Alors après, si on revient à cet échantillon-là, la miliacine a sans doute été transformée en condition acide, mais il y a d'autres molécules qui ressemblent à peu près, qui n'ont pas ce groupement, mais qui ont un autre, hein, un groupement acétate, qui elles n'ont pas du tout été affectées. C'est-à-dire, l'équivalent de la miliacine, mais avec un groupement acétate, n'a pas subi de délocalisation de double liaison. C'est-à-dire que la miliacine a subi des conditions acides avant qu'elle n'atteigne le sol, c'est des sols archéo, là où existaient déjà les autres molécules. Donc quel traitement acide permet de transformer la miliacine du millet? Mais on avait deux hypothèses. La première, c'est de la bière. Donc pourquoi pas l'âge du fer dans le Caucase, la bière de millet. Donc on a été obligé de donner de notre corps. On a acheté un pack de bière de millet à la COP bio du coin. On a extrait la bière, enfin une sur les six. Le reste, on a réservé à étudier le transit. Et puis, on n'a pas trouvé de miliacine. Donc, on espérait trouver la miliacine et les autres trucs, on n'a pas trouvé, donc pas le même process, ou alors c'est pas ça. Deuxième hypothèse, c'est cette boisson qui est une boisson lait fermenté qui est consommée en Turquie et en Bulgarie. Et donc, c'est du boza, et il y a différentes variétés de boza, dont certaines avec du millet. Donc on a demandé à une collègue bulgare qui est géochimiste organicienne qui boit du boza depuis qu'elle est toute petite de nous en envoyer, la lyophiliser et tout ça, elle nous l'a envoyé. Et on n'a ni trouvé de miliacine, ni trouvé des molécules associées. Donc on n'a pas réussi à confirmer que à l'âge du fer, dans le Caucase, il y avait non seulement du millet cultivé, mais qu'ensuite, en plus, il était utilisé pour un processus de fermentation. Voilà, c'est le seul moment où on pense que la miliacine a été dégradée.
Moi, j'ai une question, Jean-Yves, sur le fait que une des difficultés en regardant les environnements anciens, c'est de pouvoir mettre en relation, enfin, je repense notamment à la partie sur la taille de la population ou la quantité de champs de millet. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas l'information historique. Par contre, aujourd'hui, on a la possibilité de savoir à peu près, de manière instantanée ou sur un pas de temps relativement court, des surfaces, enfin, qu'elles soient mouillées ou que ce soit dans d'autres, parfois d'Orléans, la quantité de pain dans un environnement. Et donc tu pourrais tester beaucoup plus facilement le rapport entre ton archive sédimentaire très récente et puis ton environnement et vérifier à quelle mesure tu intègres bien ou mal et à quelle échelle tu intègres ton paysage dans ton archive.
Ouais, alors ça amène une réponse en plusieurs points. Là, ce que tu proposes, c'est ce qu'on appelle nous de la calibration, c'est-à-dire pour comprendre le passé, nos archives, il faut voir comment ça fonctionne dans l'actuel. Donc on a une étude par exemple sur la tourbière de la Guette où on a essayé de voir dans quelle mesure les sols avaient l'empreinte chimique de la végétation qui est juste au-dessus avec des pins et des bouleaux
et on voit que dans un rayon donné autour des pins ou des bouleaux, on va avoir l'empreinte chimique pain ou bouleau, et on ne l'aura pas là où il n'y a pas de pain ou là il n'y a pas de bouleau. Malgré des questions d'intégration dans le temps aussi, puisque le sol comprend, il a une longue histoire qui est différente de la végétation, qui n'est pas forcément collée à la végétation actuelle. On a des travaux en cours sur les Pyrénées, où on a des chroniques par les bergers, des troupeaux qui paissaient autour des petits lacs. Et il y a une collègue, Annaëlle Simoneau, qui a mesuré les acides biliaires, les stérols, fécaux et tout ça, dans une tourbe, et qui tente des reconstructions quantitatives, de corréler les tailles des troupeaux avec les quantités de ces marqueurs fécaux. Ça marche assez bien, c'est pas vraiment du quantitatif, c'est plus du relatif entre les ovins et les caprins, si je ne me trompe pas, et les signatures moléculaires distinctes que ces populations-là. Ensuite, donc on a parlé déjà sur la forêt d'Orléans, il y aurait des interactions possibles. Ce qu'il nous faut à chaque fois, nous, c'est un réceptacle, un bassin qui permette d'enregistrer sur le temps long. Alors on peut en fabriquer, il y a des zones ateliers ou des... des services d'observation, zones critiques ou bassins versants qui permettent de faire ça. Moi, je me suis dit que ça serait aussi pertinent de changer complètement de milieu et d'aller dans un milieu qui est beaucoup plus réactif et dans lequel on va avoir en temps réel, par différents moyens, ça peut être par exemple les réseaux sociaux ou la lecture de la République du Centre, pouvoir tout de suite connecter à la réalité ce qu'on lit dans l'archive sédimentaire, même ce qui arrive aux sédiments. C'est-à-dire mettre des pièges à sédiments, mettre des capteurs de molécules, de médicaments, de trucs comme ça, et voir comment ça réagit au quotidien ou à l'actualité. Alors, j'ai un collègue qui m'a dit, oui, mais ça, c'est tu fais plus d'histoire, tu fais du journalisme, et donc tu n'as plus le recul.
Oui. C'est pas un historien qui dit ça, je pense.
Donc voilà, mais oui, sur les aspects quantitatifs, et notamment sur le bétail, je pense, ou même sur des tailles de population d'arbres et tout ça, je pense qu'on a des moyens d'interaction.
En tout cas, merci.
Ouais, je t'en prie.